Nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canut.
J'ai de la bonne herbe pour vous, hein ? La meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus. Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, 102.9 MHz, la plus rebelle des radios. Et c'est l'émission du Cirque, du collectif d'information et de recherche cannabique. Et en ce 27 mai 2024, on va vous parler de la lutte contre le trafic, les recommandations du rapport d'études du Sénat. Ouf, ça fait peur.
Pas du rapport d'études. Ils n'ont rien étudié. Un rapport de la commission sénatoriale.
De répression du Sénat, un DEA à la française. Voilà, on reviendra là-dessus. On parle ensuite de l'Allemagne avec le flux massif de patients pour le cannabis thérapeutique. Et puis le Bundestag qui essaye de continuer sa légalisation avec comment on gère le cannabis au volant et qu'est-ce qu'on fait des cannabis social clubs et un petit peu plus de choses là-dessus. Puis on passera en Hollande, où on ira voir un grand débat là-bas. Faut-il légaliser les drogues dures, soit toutes les drogues? Bah oui, pourquoi pas. Chaque drogue, sa légalisation.
Oui. Au moins là-bas, ils en parlent.
Et là-bas, voilà, ils réfléchissent.
Oui.
Après, un petit texte du Cirque Asso sur la légalisation. Voilà, la meilleure option pour la santé publique et pour les droits de l'homme.
Alors en fait non, c'est le cirque, mais c'est comment dire, ça reprend les arguments du coordinateur des affaires de drogue au Portugal. Voilà, donc c'est intéressant.
Et puis on ira voir un petit tour aux États-Unis avec le taux moyen de THC dans le cannabis légal, 16% a priori actuellement. Voilà,
ouais, c'est la DEA qui
différents
dit.
Débats
c'est intéressant
là-dessus.
Ce qu'il dit, c'est pas simple. Hein.
C'est pas simple. Et puis pour finir, la Californie qui passe à l'autorisation des cafés à cannabis. Voilà, on verra ça pour finir.
Oui, et puis alors, juste avant de débuter, est arrivé sur mon répondeur, sur ma messagerie, un petit coup de fil de notre camarade Dominique du Cirque, du côté de Poitiers, mais qui s'est rendu à la Canaparade samedi à Paris, voilà, c'était samedi 25 mai à 14h. Et donc il me disait qu'il y a eu un peu de monde quand même, à peu près plus de 1000 personnes jusqu'à 1500, il dit. Donc ça a quand même attiré pas mal du monde, apparemment ça s'est... Très bien placé, très bien passé, mais on vous en dira un peu plus, je pense, la semaine prochaine, parce que comme il me disait, il n'a pas eu le temps de publier les articles sur la page Facebook du Cirque et sur le site du Cirque. Donc voilà, on aura, je pense, des échos également peut-être dans la presse. Enfin, il aura trouvé des articles à publier et on pourra vous en parler un peu plus la semaine prochaine. Voilà, mais donc Canaparade à Paris, qui s'est bien passé samedi. Voilà. Et on salue tous nos camarades du Cirque, du côté de Poitiers, du côté de Paris, et tous les cannabinophiles, les canactivistes français qui sont partout en France.
Voilà, et qui nous écoutent donc sur les ondes, directement sur Internet, puisque sur nos ondes, on ne va pas beaucoup plus loin que la grande agglomération lyonnaise.
Voilà, donc avec l'émission qui est diffusée sur le site du Cirque et qu'on peut retrouver, c'est génial.
Une
large audience. Voilà.
Surtout qu'il y a besoin, et on revient avec le cannabis qui nous parle des opérations Platsnet XXL, les tests salivaires aux piétons. Bref, les consommateurs toujours plus dans le collimateur de ce gouvernement.
Voilà, donc un article du Cannabiste qui nous propose un article, une tribune très critique de cette opération Platsnet XXL.
Ouais, parce qu'avant c'était opération Place Nette, hein, maintenant c'est opération Place Nette XXL. Le XXL c'est plus clinquant, vous voyez. Le but est de faire la chasse aux trafiquants de drogue, entendez surtout aux trafiquants de cannabis et aussi aux consommateurs. Puis de gratter un peu d'argent, car l'autre but actuel de la France est de faire des économies sur le dos, non pas des riches, mais des plus pauvres.
Et donc, sans parler aussi de leur volonté hein, de vouloir instaurer, renforcer, enfin instaurer les tests salivaires effectués aux piétons. Oui, oui, aux piétons. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Hein, ça sent le délit de faciès à plein nez. En effet, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Donc, le gouvernement en bande organisée, eh bien, les détails donc dans cet article du voilà, cannabiste.
Macron, Attal, Dupond-Moretti, Darmanin.
Toute la clique.
Voilà.
Qui ont des objectifs précis en ce moment.
Ils veulent faire le grand ménage de printemps ouais. Et renflouer les caisses de l'État au passage. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'opérations avec des déploiements de moyens faramineux, financiers, humains.
Oui, oui, mais c'est bien qu'ils mettent son doigt là-dessus, le cannabis,
des perquisitions, etc.
Et voilà. 4000 forces de l'ordre mobilisées par semaine.
Enfin, c'est TF1 qui raconte ça.
C'est ce qu'ils disent en reprenant les propos, oui, des TF1. 5 unités de force mobile, soit 500 personnes en plus. Tout ça, un prix, ça va de soi. Mais comment dire, le quoi qu'il en coûte contre le cannabis visiblement semble être de la partie, puisque Darmanin nous dit que pour lui le terrorisme est moins important et moins grave que le trafic et que le fait que les Français aiment fumer du cannabis. J'hallucine.
La drogue est la plus grande menace sécuritaire de notre pays.
Alors la drogue illégale hein. pas l'alcool, non, ça ce n'est pas une drogue bien sûr.
C'est ça.
On imagine, continuer un peu hein, ce qu'il dit, on imagine non sans mal que pour lui, un pétard est une arme plus effroyable qu'une Kalachnikov. Voilà. Donc, comme tu disais, oui, plus grande menace sécuritaire de notre pays, blablabla. Bla, bla, ouais. Donc prohibition, propagande, sensationnalisme, climat de peur autour de la drogue et des quartiers auprès des fanatiques de chaînes. Auprès des fanatiques de chaînes de TV bien connues dont nous tairons le nom. Ouais, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi il parle, mais bon, nous on voit à peu près. Qui ne cherchent pas plus loin et croient sur parole ce qui s'y dit. En bref, comme le dit si bien le cirque, un véritable festival de cam. Pourquoi un coup de communication ? Bah, comme nous le disions dans l'intro, à l'approche des Européennes, il faut bien faire miroiter au monde que la sécurité du peuple est ce qui importe. Mais nous ne sommes pas dupes et nous savons parfaitement qu'à part essayer de faire des démonstrations de force, cela ne sert à rien et fait même rire sous les chaumières. Et nous sommes une majorité à ne pas être convaincus par ces opérations. Les guignols sont entournés. Ah, il sulfate hein, le cannabis là, dans cet article. Hein, il y va, il mitraille. Si vous connaissez Lyon, vous connaissez ces marionnettes théâtrales au nez rouge qui sont censées faire rire enfants et plus grands. Oui, vous savez, Guignol, Niafron, Madelon et le gendarme, avouez que ce parallèle est assez cocasse et bon enfant. Plus sérieusement, passons à quelques déclarations de nos chers ministres. Pour Gégé, à bas les enquêtes de longue haleine et bien complexes. Non, ceux qui fonctionnent, ce sont les démonstrations de force et les pseudo gros coups de filet, quitte à foutre en l'air des mois de travail d'enquêteurs, sans pression. D'après lui, ces opérations permettent de couper les pattes de la pieuvre. Mais ce ne sont pas des pattes, ce sont des tentacules et même des bras, décidément, quand on a tout faux.
Et puis quand on le coupe, une tentacule, elle repousse encore plus vite.
Aïe, aïe, aïe. Et oui, voire deux même. Point de vue qui ne fait pas l'unanimité auprès de certains magistrats ou organisations syndicales et acteurs de premier plan, d'ailleurs, qui se montrent... certains se montrent critiques, hein. Parce qu'il continue, et il nous dit ceci, Darmanin. On peut attendre éternellement d'avoir absolument toutes les preuves que quelqu'un ait tué plusieurs personnes pour qu'il y ait une très bonne condamnation, mais vous allez laisser tuer plusieurs personnes, je ne suis pas dans ce raisonnement-là. No comment, mis à part, Darmanin, grand sauveur des Français, ceci est ironique, bien sûr, de son côté, le garde des Sceaux a su bien tacler certains magistrats et juges d'instruction, bah oui, il faut bien que cela soit la faute de quelqu'un. Des consommateurs et de ceux qui ont pour ordre de devoir de mener des enquêtes. Hein, tout cela est assez lunaire. La bande à Bozo sur Europe 1 dans Punchline, c'est presque drôle. Alors là, attention, je n'écoute pas Europe 1 du coup. Là, le cannabis dans cet article nous livre quelques extraits de conversations entre donc Laurence Ferrari qui anime l'émission Punchline. Et il y a qui d'autre? Alors, il y a Dupond-Moretti, il y avait Darmanin, et puis il y avait Vincent Hervouet. Alors, on va voir qui sont ces gens. Alors, Dupond-Moretti qui dit ceci: s'il n'y a pas de consommateurs, ben, il n'y a pas de trafiquants. C'est vrai que c'est d'une perspicacité sans nom, mais du coup, on ne sait pas trop qui est arrivé le premier, si c'est le consommateur ou le trafiquant. Non, en fait, c'est toujours un peu, voilà, l'œuf ou la poule, on ne sait pas bien. Hein. Alors, après, il y avait un ancien sénateur et secrétaire d'État, André Valigny, qui dit ceci: on devrait passer l'amende à 300 euros.
Ou encore, 3 000 euros.
Oui,
il faut frapper les consommateurs. On est trop gentil avec les consommateurs.
Donc 3 000 balles, allez hop.
Voilà, et Laurence Ferrari. Il faut les sanctionner.
Et Laurence Ferrari qui dit: bah, pourquoi est-ce qu'on ne les sanctionne pas plus alors? L'autre il dit: bah, peut-être parce qu'il y a des consommateurs dans les élites aussi. Oui, bah, oui, effectivement, il y en a. Et alors c'est eux qu'il faudrait aller taxer.
Et d'ailleurs, il y en a plus dans les élites que dans les.
Mais oui, on le sait bien, on le sait bien.
Je le rappelle pour.
Alors, un rire complice et collectif, même pas caché ou retenu. Voilà, c'est beau la petite bourgeoisie, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, eux, les foudres de la prohibition, ils les sentent pas. Hein. Ça ne les concerne pas. C'est d'ailleurs un peu. On n'en parle pas suffisamment. Là, le cannabis aurait peut-être pu pousser un peu plus, mais c'est effectivement. Tout ce système est un système ultra hypocrite, en fait. Où, en fait, les gens qui consomment le plus sont les moins inquiétés. On sait bien que des drogues, il y en a qui. Elles sont consommées dans tous les milieux sociaux, y compris dans les milieux favorisés. Mais bon, ben. Voilà. Eux, ils sont pas dans le collimateur de Darmanin. Et il y en a un autre qui nous dit ceci, Vincent Hervouet: je ne supporte pas les gens qui ricanent quand on parle de chichon, qui trouvent très plaisant toutes ces allusions à la dope. Ah oui, parce qu'en plus, faut rentrer dans le langage, dans le vocabulaire du drogué. En France, on est les champions du monde sur le taux de suicide chez les jeunes. Bah non, en fait, c'est faux. Il y a d'autres pays qui sont bien devant nous, comme la Corée du Sud, le Japon, la Russie, l'Inde et les États-Unis. Vérifié par le cannabis en tout cas, et apparemment on sera aussi des champions du monde sur la consommation d'anxiolytiques. Bon, ça c'est plutôt vrai, mais avec un tel gouvernement et une telle régression, on se demande bien pourquoi. Champion du monde sur l'avortement, ils sont capables quand même de nous sortir des trucs comme ça, comme si c'était grave de qu'il y ait un pays pratique beaucoup d'IVG. Enfin, c'est qu'il y a une nécessité, et puis vraiment c'est quoi le rapport? On voit pas bien, hein. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là, c'est quoi en fait, pourquoi ils mettent tout ça? Alors apparemment ce serait, d'après le cannabis, la peur de l'image que reflète la France. Ces gens auraient cette peur là de ce que la France peut représenter à l'étranger. Bon. Alors, le bilan, vous avez sûrement vu passer, en tout cas certains ont peut-être vu passer le bilan du programme, de toute l'animation, de tout le truc, la PlaceNet XXL, faisant refléter l'efficacité de leurs actions, parce qu'ils nous ont parlé de milliers d'arrestations, de millions d'euros saisis, ainsi que d'armes et de drogues. Il faut savoir que les chiffres qu'on nous annonce sont légèrement biaisés. Alors là, c'est intéressant. Donc c'est un policier parisien qui s'exprime et qui dit ceci: la hiérarchie nous a explicitement dit de tout faire rentrer dans les opérations XXL. Parce qu'apparemment les consignes dans un commissariat parisien. Toute interpellation pendant les 3 semaines que dure l'opération est renseignée comme ayant été effectuée dans ce cadre, sauf les violences intrafamiliales, même si l'on est hors du secteur et hors des horaires de l'opération. Voilà, bon, effectivement, ça fait réfléchir. Puis, c'est un juge d'instruction de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est exprimé récemment et qui disait: plusieurs enquêteurs au commissariat expliquent qu'on leur a demandé, dans la perspective des opérations, de sortir 4 ou 5 dossiers pour atteindre les objectifs d'interpellation sans lien avec du stup. Bon, voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. Il reste les tests salivaires. Comme si tout ce remue-ménage digne d'une scène de théâtre ne suffisait pas, Darmanin vise à réduire encore un peu plus les petits. Attends, je me trompe. Vise à attaquer encore un peu plus les petits consommateurs. Je crois qu'il a fait une erreur, là, le cannabis. Bref, comment ? En renforçant les tests salivaires sur les piétons, une nouvelle idée saugrenue censée entraver le trafic et la consommation de cannabis en France. Le délit de faciès a encore de beaux jours devant lui. Et comme le disait Valigny, il y a des consommateurs au sein des élites, et comme le dit le cirque, et si nous les testions, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire des tests salivaires dans le 16e arrondissement, dans le 7e ? Ou devant les collèges et les lycées huppés où se rendent nos prochaines élites, ceux qui seront nos prochains ministres, etc. Et le nombre de résultats positifs à la cocaïne risque d'exploser. Nous savons que vous savez que c'est un secret de polichinelle. Alors allons-nous vers une surveillance permanente, nous privant de toute liberté, comme en Chine par exemple ? Non à la répression, non à la prohibition, élevons nos voix pour nos libertés partagées sur les réseaux sociaux, etc. etc. Bref. Voilà, donc ça a coûté de l'argent, ça a coûté très cher, il a fallu mobiliser du monde, et puis en plus on dit aux forces de l'ordre de magouiller un peu leurs chiffres et leurs stats pour les ranger dans la période de l'opération Plastnet XXL pour les faire gonfler, et pour faire du buzz et de la com médiatique avant les élections européennes. Voilà, bah. Voilà. Allez, un peu de musique. À tout de suite.
Speaking for the legalization of marijuana.
Of marijuana. legalization of marijuana.
Et voilà, donc...
C'était le peuple de l'herbe, Reggae-matic.
C'est ça.
Et oui. Un morceau, morceau génial, je trouve. Et pff, qui commence à avoir de l'âge, plus de 20 ans. Voilà, mais bon, ça rappelle le bon temps. Allez. Allez, on va s'intéresser à...
Un petit article du Monde qui nous parle du rapport sénatorial ils ont fait pour la lutte contre le narcotrafic, les sénateurs ont fait des recommandations.
Voilà, donc bah, ils ont travaillé dessus. Parce que
603 pages le rapport. Hein. Donc 35 recommandations. Elles ont notamment pour objectif de renforcer l'arsenal législatif, de donner des moyens supplémentaires aux enquêteurs, mais aussi de refondre les services spécialisés, parquet, cours de justice, police, renseignement. Voilà, encore des cours d'assises spécialisées. Donc, on avait déjà celle pour le. On avait déjà le PNAT, le Parquet National Antiterroriste, le PNF, le Parquet National Financier. Et donc, là, on va avoir le PNAST. PNAST. Donc, le Parquet.
National Antistupéfiant, comme l'OFAST.
Voilà.
Voilà. Non mais alors juste avant de continuer
avec une cour d'assises spéciale pour les assassinats et meurtres commis en bande organisée.
Ouais, alors juste quand même avant de continuer, faut rappeler quand même que parce que je pense que beaucoup de gens ne le savent même pas, mais les lois anti-drogue en France sont des lois d'exception. Oui. Ils sont calqués sur les lois antiterroristes. Donc oui. On n'a pas affaire à des petites lois toutes gentillettes. Qui laisse le trafic prospérer ou qui laisse tranquille. Non, enfin, je veux dire, il y a un arsenal judiciaire qui est mis en place pour lutter contre la drogue et qui s'est étoffé sur
contre
5
la
décennies.
Drogue illégale.
Oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Donc, alors, en plus de tout ça, hop, ils en rajoutent plusieurs couches. Alors, ensuite, on continue. Un arsenal pénal étoffé. C'est vrai qu'avant, il était ridicule.
Voilà, donc ils veulent créer encore un crime d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un des crimes relevant de l'article 706-73 du code pénal. Voilà, donc c'est de tout ce qui est trafic, vente, culture et tout ça.
Mais ça existe déjà.
Oui, oui, bon, ils veulent juste le renforcer encore.
Non, mais, enfin...
Bah oui, c'est ridicule. Ça existe déjà.
C'est ridicule.
Voilà, un recours étendu au repentir aussi dedans. Il voit dans les informateurs et les repentis des alliés précieux pour les enquêtes anti-stup.
Oui, mais pas près d'avoir moins de règlements de compte. Hein.
Ouais. Aussi, la confiscation des avoirs criminels facilitée, elle a frappé les narcotrafiquants au portefeuille.
Voilà, alors là, juste, je voudrais qu'on s'y attarde 2 minutes.
Avec parce une procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. Vas-y, je t'écoute.
Oui, bon, en fait, c'est. Enfin, je veux dire, ce qu'on se disait avant l'émission, là. Quand on parlait de, quand on était en train de préparer la revue de presse, ça, ce sont, ça, c'est vraiment faire du neuf avec du vieux, quoi. Ça existait déjà. C'était vraiment un truc central mis en place dans les projets de lutte anti-drogue sous Sarkozy il y a au moins 15 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Ils n'ont pas frappé les narcotrafiquants au portefeuille. C'était le cœur des GIRS, des juridictions spécialisées. Enfin, ah bon, bah, comment tu fais quand t'as pris tout ce que tu dois prendre et qu'après il n'y a plus rien à prendre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le mec à poil, tu lui piques son froc? Enfin, je veux dire, c'est quoi le. Enfin, à un moment, on frappe les narcotrafiquants au portefeuille ou on les frappe pas? Enfin, je veux dire, c'est encore une fois. On se fiche un peu de nous quand même, hein, franchement. Bon, allez, on continue. Alors, voilà. Et donc, ils veulent faire de l'OFAST une espèce de DEA à la française. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Comme si la DEA aujourd'hui. Oui, alors effectivement, une véritable autonomie d'action et de décision en la dotant notamment d'un pôle de renseignement, d'un algorithme de détection des consultations anormales de fichiers. Alors là, je suis d'accord. Ça, c'est pour lutter contre la corruption dans les rangs de la police. Donc en fait, ils veulent faire une super DEA, mais le truc qu'ils trouvent à nous dire en premier dans l'article, c'est que c'est d'abord pour lutter contre la corruption des flics eux-mêmes. Génial. La direction.
Il n'y a pas plus de corrompus que dans la police que dans le reste de la société française. Avec un ministre, il n'y a pas si longtemps.
Je suis d'accord. Enfin, c'est juste que là, il nous parle de 35 mesures. Puis en fait, celle qu'il trouve à nous sortir là, pour la DEA, c'est celle-ci. C'est un peu rigolo, je trouve.
Non, mais c'est quand même énorme, hein, quand même, comme phrase. Hein. C'est comme si on disait, il n'y a pas autant. Il y a le même nombre d'analphabètes chez les profs que dans le reste de la population, quoi.
Peut-être, hein, je sais pas.
Non, la police doit être exemplaire, point. Ou sinon, ben, voilà.
Enfin bon, en tout cas, ils prévoient de lutter contre les ripoux dans leur rang. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire d'autre? Donc, le rapport invite à donner à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure les moyens d'être pleinement mobilisés dans la lutte contre le narcotrafic. Donc, il faut impliquer les renseignements, les services secrets, en fait.
Je pense que la DGSI devrait continuer à bien travailler sur l'antiterrorisme. Ils s'en sortent, a priori, pas trop mal.
Il peut peut-être y avoir des liens dans ces groupes criminels tentaculaires.
Bah oui, c'est vrai que derrière chaque joint, il y a un terroriste. J'oubliais. Tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Non, mais bon... Et enfin, des contrôles à 100% pour tous les gens qui reviennent d'outre-mer. 100% des passagers et des bagages pour assécher les voyages de mules. Voilà.
Étendu aux Antilles.
C'est cela.
Voilà, bravo.
Bon. Bref, de la répression. Tout le monde dit que la répression, ça sert à rien, mais continue.
Alors moi, ce que je crains quand même, c'est qu'avec... avec toutes ces mesures qui pourraient être mises en place, parce que pour l'instant, on est quand même, c'est du conditionnel, hein, ce ne sont que des propositions, ça n'a pas encore force de loi, même si ça peut le devenir malheureusement assez rapidement. Ce qui est quand même à craindre, c'est que des usagers festifs et partageurs et solidaires, je ne sais pas comment dire, se retrouvent à être poursuivis comme des réseaux criminels à part entière. Et parce qu'on a bien vu ce qu'a donné la loi de 70 globalement, c'est comme je le disais, c'est un arsenal juridique qui a été mis en place durant les années 70, 80, 90 et qui s'abat finalement sur les consommateurs qui ne sont pas des narcotrafiquants organisés et aguerris. Donc voilà, ce qui est à craindre. Malheureusement, encore une fois, on sait bien que quand il s'agit de drogue et de lois mal foutues, celui qui paye les pots cassés, ben c'est l'usager, quoi. Voilà. Donc bon, toujours à craindre ce genre de dérive, et malheureusement, je vois pas beaucoup de garde-fous pouvant empêcher cela. Voilà. Allez, on va changer d'air, on va quitter l'Hexagone, on va aller faire un tour en Allemagne.
Ouais, les pays qui réfléchissent avec leur tête.
Ouais, effectivement. Alors, il se passe quelque chose en Allemagne, et d'ailleurs, il se passe à peu près la même chose en Angleterre, puisque les autorités anglaises, on n'a pas l'article là, il me semble qu'on en a parlé, mais je ne suis pas sûr, ont modifié certaines choses dans leur législation, et notamment au niveau du cannabis médical, et les Anglais s'aperçoivent, se rendent compte qu'il y a un afflux massif de patients ces dernières semaines, de patients qui veulent... accéder à du cannabis médical, et il semblerait, c'est même sûr, c'est qu'en Allemagne on observe la même chose depuis un mois, donc depuis le 1er avril, afflux massif de patients qui souhaitent se voir prescrire du cannabis médical, et apparemment ça semble assez simple, en tout cas en Allemagne. Puisque en même temps qu'on a assisté à la légalisation, ces dernières années, on a vu l'évolution de la télémédecine, qui est également présente dans le secteur du cannabis médical. Et désormais, pour une personne qui est malade, qui souffre et qui veut se voir prescrire du cannabis médical, l'accès est beaucoup plus simple. Un patient finalement n'a qu'à participer à une brève consultation initiale avec son médecin pour obtenir un certificat d'achat pour une prescription privée, ce qui lui permet d'acquérir du cannabis dans sa pharmacie locale. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses ?
Tout à fait, tout à fait.
Donc, selon les rapports de Business of Cannabis, de nombreuses entreprises proposent désormais des consultations en ligne rapides et pratiques d'une durée de 10 minutes, hein, ce qui n'est pas énorme, ce qui permet aux patients de recevoir des prescriptions, voilà, qu'on peut envoyer aussi directement à leur domicile ou à la pharmacie de leur choix, comme je vous le disais. Et il y aurait actuellement en Allemagne environ 300 000 patients qui utilisent du cannabis à des fins médicales, dont une proportion significative bénéficie, écoutez bien, d'un remboursement partiel ou total de leurs frais par le biais de l'assurance maladie allemande. C'est pas beau ça, franchement. Non, mais c'est pas mal. Hein. Alors, et on observe aussi l'essor des cliniques de télémédecine. Des cliniques de télémédecine. Qui offrent des conseils personnalisés et des produits à des prix abordables, de plus en plus de nouveaux patients optent en fait pour l'achat direct de leurs médicaments, contournant ainsi les processus d'assurance traditionnels. Une vague impressionnante de nouveaux patients a déferlé sur le paysage médical allemand entre avril et mai, donc en l'espace d'un mois. Hein, le directeur général de Sanity Group, Finn Hage Hansel, nous dit que jusqu'à 70 000 personnes ont rejoint les rangs des patients de cannabis médical pendant cette période. Et Canturage, une entreprise opérant la plateforme de télémédecine Telecan, a témoigné d'une augmentation de plus de 300% des inscriptions hebdomadaires en avril. Les télécliniques en ligne comme AlgeaCare ont pris en charge environ 100 000 patients au cours des deux premières semaines suivant la reclassification, créant ainsi des tensions considérables dans les pharmacies à travers le pays. Voilà ce qu'a déclaré David Henn, PDG de Cana Medical Pharma. Alex Kurdaji, analyste principal chez Prohibition Partners, souligne lui l'impact majeur de la loi MedCanG sur l'accès au cannabis médical. Il a observé que cette législation a ouvert de nouvelles voies pour les consommateurs adultes traditionnellement associés à un usage récréatif du cannabis, mais désireux de bénéficier de ses propriétés médicales. Cette facilité d'accès rappelle les jours de la Californie, où les consommateurs adultes se tournaient vers le cannabis médical pour obtenir une source légale de cannabis, mais dans un paysage contemporain, numérisé et sophistiqué. Mais oui, comme quoi, c'est pas nouveau, finalement. Ce qu'on observe là, ça a déjà été observé en Californie il y a une vingtaine d'années déjà. Voilà. Allez, maintenant, toujours en Allemagne, on va s'intéresser aux nouvelles pistes qui étudient le Bundestag pour les futures réglementations sur le cannabis. Enfin, futures là, dans l'immédiat, hein, dans les prochains mois. Hein. Il va y avoir de nouvelles règles. Et notamment pour tout ce qui concerne le cannabis au volant, mais pas uniquement.
Voilà, donc le cannabis au volant, donc ils ont mis un seuil, eux, c'est déjà dans le sang. C'est 3,5 nanogrammes par millilitre de sérum sanguin. Et c'est le THC qu'on mesure. Donc là, le minimum, on ne peut pas détecter en dessous d'un nanogramme. Donc 3,5, je ne sais pas si c'est beaucoup. Au moins, ce n'est pas du THC-COH qui intervient après.
Voilà, on n'a pas le détail de ça.
Comment ?
On nous le dit, là, on n'a pas le détail de ce genre de choses.
Voilà, mais là, c'est sur le sérum sanguin. Bon, après, il faut voir. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, à combien de joints. On va attendre qu'il y ait des études pour en savoir un petit peu plus là-dessus.
Oui.
Sinon, comme le THC, ça reste quand même longtemps dans le sang. Et que même des gens qui consomment régulièrement peuvent dépasser cette dose de 3,5 nanogrammes par millilitre, ils préconisent de faire d'abord des tests salivaires qui là montrent si on est sous influence ou pas, puisque c'est assez rapidement après l'avoir consommé que l'on en a.
Alors j'espère que ce ne seront pas les mêmes tests salivaires qui sont utilisés en France, parce que là malheureusement on sait qu'ils détectent le COH. C'est pour ça que là dans l'article il parle d'utiliser des tests salivaires sensibles. Mmh. Alors est-ce que ce terme sensible est là pour justement montrer que ce ne seront pas les mêmes tests salivaires? Alors, je ne sais pas. À voir. Mais effectivement peut-être que justement si on découvre que du THC-COH, c'est bien la preuve que la personne n'est pas sous l'influence. Bon.
En outre, il existe une interdiction stricte du niveau de THC pour les conducteurs débutants, ainsi qu'une interdiction de conduire sous l'influence combinée de l'alcool et du THC pour tous les conducteurs. Et ça, on a vu que c'était plutôt bénéfique.
Oui. Bon, on sait bien, hein, depuis bientôt 20 ans, depuis le rapport SAM, stupéfiant accident mortel de la circulation routière, hein, qui a été publié, enfin la partie première a été publiée en 2005, on sait bien que c'est le mélange alcool-cannabis qui est particulièrement létal au volant, ou au guidon.
Il parle aussi d'augmenter donc les peines, les amendes et le nombre de points relevés en cas de dépassement des seuils.
Voilà, ils veulent décourager vraiment la consommation alcool-cannabis.
Voilà, et surtout des augmentations et des prix faramineux quand c'est en récidive, hein, ça peut atteindre 5000 euros.
Oui.
Des règles aussi pour les cannabis.
Futur cannabis club, oui. Ouais. Alors, j'ai pas tout compris. Je sais pas si toi,
donc,
t'as tout
les amendements proposés se concentrent sur la flexibilité des autorités fédérales en termes de zones de culture et de contrôle, sur la mise en œuvre d'une formation complémentaire sur les conseillers en prévention des dépendances, ainsi que sur la restriction des fournisseurs de services commerciaux. Ouais. Bon, en tout cas, ils essayent de réfléchir. Bon, il y a aussi des trucs sur les zones de culture. Voilà, la fréquence des inspections par l'autorité fédérale. Voilà, la formation, oui, c'est à peu près tout ce qu'on a déjà dit. Et pour conclure, donc, toutefois, les nouveaux amendements concernant les zones de culture et l'interdiction des offres groupées de services ont été critiqués, car ils imposent une nouvelle série de restrictions aux associations de cannabis qui sont déjà soumises à des contraintes très strictes. Un rapport juridique publié dans le cabinet de droit administratif, basé à Munich, a récemment examiné les amendements proposés et les a jugés problématiques à certains égards inconstitutionnels. Bref, c'est pas encore totalement fini cette histoire.
Non, bah c'est sûr, bah ça va, de toute façon ça va continuer encore pendant plusieurs mois et même plusieurs années. Et en espérant que le prochain gouvernement allemand, qui ne sera certainement pas celui des feux tricolores, là, comme ils disent, enfin, j'espère pour eux, hein, je veux dire, mais j'espère que, en tout cas, si ce sont des conservateurs qui arrivent après eux, ils ne détricotent pas complètement cette loi et pour finir par l'enterrer, quoi. Je l'espère pas, mais bon. Voilà. Allez, on va s'intéresser un peu aux Pays-Bas maintenant, avec un article de Courrier International qui nous fait part de différents propos de certaines personnalités politiques pour nous exposer en fait un débat qu'il y a actuellement aux Pays-Bas sur cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement finir par tout légaliser, et notamment les drogues dites dures? En tout cas, là-bas, ils réfléchissent.
Ouais, c'est-à-dire légaliser toutes les drogues, pas seulement le cannabis.
Voilà.
Voilà, les quantités de drogue circulant aux Pays-Bas explosent, la violence des groupes qui se disputent son commerce est endémique. Pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants, la bourgmestre d'Amsterdam plaide pour la légalisation. Donc il y a toujours, comme en France, hein, parce que le problème de la drogue est colossal depuis des années. Les tenants de la ligne dure à droite souhaitent une politique plus ferme, tandis que les progressistes plaident traditionnellement pour que la liberté prévale. En Hollande, y a toujours une tolérance du commerce et de la consommation du hashish et de l'herbe. Et par contre, elle sanctionne d'autres drogues comme la cocaïne, l'héroïne ou l'ecstasy, qu'elle considère comme des substances bien plus dangereuses. Alors, la légalisation serait-elle la solution ultime pour tout le monde? Voilà que depuis quelques semaines, ce vieux débat connaît un nouveau souffle. D'ailleurs, je vous rappelle que le cirque est depuis longtemps aussi sur cette position. Légalisation de chacune des drogues différemment selon chaque drogue, hein, une législation particulière pour chaque drogue. Non, on se bat en particulier pour une légalisation, une législation particulière pour le cannabis. Si vous ne l'auriez pas compris. Allez, qu'est-ce qu'elle dit donc? Il y a
Femke Halsema,
voilà.
La maire d'Amsterdam. Enfin, la bourgmestre, on dit là-bas, mais c'est la maire d'Amsterdam. Voilà, et ben elle est plutôt pour, en fait, légaliser.
Ouais, elle va à
débat. Elle a même organisé une conférence à destination des maires et des scientifiques, une conférence internationale articulée autour de son plaidoyer pour la légalisation totale de la cocaïne. Mais bon, plus tard, c'est les policiers qui ont eux-mêmes organisé un grand débat contre la légalisation. Voilà, bon, on ne sait pas bien trop ce qu'ils veulent.
C'est quand même pas. Hein, ils ont dit les représentants de la loi contre la drogue. Et après, en fait, ils disent qu'ils expliquent quand même que c'est la politique de la lutte contre la drogue s'enlise sur un chemin de moins en moins praticable. Donc voilà. Bon, il y a aussi Job de Schipper. Voilà. Donc chef adjoint de la nouvelle unité d'enquête et d'intervention, hein. Qui lui aussi se montre ouvertement favorable à la libéralisation. Pour lui, il faudra compter avec ce Néerlandais convaincu. Il faut arrêter de se battre contre les barons internationaux de la cocaïne.
Les barons internationaux,
de la cocaïne.
Réglementer lui aussi, oui.
La narcocriminalité est le fruit de nos politiques répressives, mais ne pourrait-on pas plutôt que la hausse du trafic de stupéfiants...
découle de la banalisation de la consommation de drogue dans notre société ? Question qui est posée. Hein.
Tout à fait.
Et voilà, les trafiquants profitent simplement de la flambée de la demande en cocaïne et autres stupéfiants. Le fait est qu'aujourd'hui, ça c'est intéressant quand même aussi, les jeunes grandissent avec l'idée qu'une ligne de coke ou une pilule d'ecstasy font partie de la vie. La nouvelle génération ne connaît aucune limite à l'usage de la drogue. Ne vaudrait-il donc pas mieux commencer par là au lieu de parler de légaliser, ce qui reviendrait en pratique à réduire encore davantage les entraves à la consommation de drogue. Sauf que pour bien faire de la prévention, il faut légaliser. Et ça, le problème, c'est qu'il... Bon, ce monsieur, il le dit pas, mais en tout cas, ça, on le sait bien.
Il le pense, de toute manière.
Bref, c'est pas très explicitement. Alors, en tout cas, il dit qu'il partage l'avis de... c'est Jon van den Heuvel qui lui partage l'avis donc de Schipper et de la maire d'Amsterdam lorsqu'ils disent que leur politique doit changer. Et il les félicite même d'avoir attiré l'attention sur cette question et que ils ne le font pas. C'est un problème qui détruit des quartiers entiers, corrompt la société, déclenche une explosion de violence et ruine la vie des usagers de drogue et de leurs familles. Mais commençons plutôt d'abord par faire chuter la consommation de drogue pour décourager. Bon, bref, là, lui aussi, il est quand même aussi sur cette ligne-là. Donc, c'est pas très clair quand même.
Hein. Non, c'est par décourager l'usage de la cocaïne et d'autres, comme cela se fait déjà pour l'alcool et les cigarettes chez les jeunes. Et voilà, c'est ce qu'on fait pour les alcools légaux, les drogues légales.
Parce que toi, tu comprends ça. Parce que moi, quand je lis « Commençons plutôt par essayer de faire chuter la consommation de drogue », je vois pas... Là, il parle pas de légaliser, là.
Par améliorer la prévention et la prise en charge des addictions et par impliquer des relais de la société pour sensibiliser aux risques. Il faut les deux, de toute manière. Hein. Et si on remarque que dans tous les pays qui ont légalisé, il y a une baisse de la consommation, surtout chez les jeunes, c'est qu'il y a une prévention. Donc l'important, c'est la prévention, et la prévention, c'est les jeunes. Surtout pour des cerveaux qui ne sont pas encore totalement formés, donc qui sont plus sensibles aux substances psychoactives.
Oui, certes. Enfin, en tout
qu'elles
cas,
sont contenues dans les.
Je suis
les
persuadé qu'aux Pays-Bas.
Dans les drogues légales.
Non, mais d'accord, je comprends. Mais je pense qu'aux Pays-Bas, ils font 1000 fois plus de prévention que nous.
On en fait très peu, donc c'est facile.
Quand ils disent ça, je trouve que ça tombe un peu à plat, mais bon. Nous ne vivons pas en Hollande. Alors.
Voilà, après deux Bolsrand,
de Volkstrand. Voilà. C'est une autre personnalité qui s'exprime et qui, elle, est cette personnalité donc à fond d'accord avec la maire d'Amsterdam et qui dit que voilà, toute personne qui prétend porter un regard sur les drogues, porter sur les drogues un regard rationnel et dénué d'idéologie ne peut qu'arriver à la conclusion que la régulation est la seule voie possible. La guerre contre la drogue coûte actuellement des milliards et des milliards d'euros. Sans succès, on ne pourra la gagner qu'en coupant l'herbe sous le pied des criminels. Toute autre méthode est désespérément vouée à l'échec, nous le savons depuis la prohibition aux États-Unis.
C'est quand même vrai, quoi. C'est bien de le rappeler, quoi.
Ah oui, oui. Quand
on a eu une expérience, c'est dur. Quand même aux États-Unis, c'est les dames pour la famille qui ont voulu faire interdire les drogues, quoi, l'alcool. Et au bout de quelques années, c'est les mêmes qui ont fait relégaliser, quand même.
Oui.
Parce que les dégâts dans les familles étaient bien pires.
Mmh.
Ah bon, je te laisse continuer ou avancer un peu.
Ouais, voilà. Donc, alors ceux qui sont clairement, carrément opposés à toute évolution, eh bien, c'est les partis du centre à l'extrême droite, qui eux plaident pour, un peu chez nous, on pourrait mettre Darmanin avec eux. Tiens, là-bas, Darmanin avec les réacs d'extrême droite aux Pays-Bas, hein, ils seraient très bien. Hein. Non seulement parce qu'ils sont opposés à toute idée sensée, j'aime bien ça, d'autant plus si elle est étayée par la science. Voilà. Mais M. Darmanin, il est dans ce camp-là, dans le camp des gens qui sont opposés à toute évolution, notamment si elle est étayée par la science, mais aussi et surtout parce que l'appel vient d'Amsterdam et de sa mère de gauche, donc voilà ce que dit ce monsieur. Et que de toute façon, même s'il propose des choses très bien et qu'il pourrait convaincre un demandeur d'asile de rebrousser chemin, eh bien, ces partis réac et dont l'extrême droite serait capable de dire que c'est pas bien. Parce que la mère d'Amsterdam, bref. Avec cette attitude butée, il sous-estime pourtant la tolérance des Néerlandais à l'égard de la consommation de drogue, même au sein de l'électorat de droite. Les écarts dans les habitudes de consommation se sont en grande partie résorbés, que ce soit entre individus dotés d'un bas ou d'un haut niveau d'instruction, entre zones urbaines et rurales. Dylan Yeşilgöz reproche aux propositions de Alsema d'être dignes de discussions de comptoir, ce qui ne manque pas de cocasserie pour une dirigeante d'un parti populaire pour la liberté et la démocratie, donc les fachos. Car s'il y a une chose que les membres des partis d'extrême droite apprécient, outre de prendre un verre au comptoir, c'est bien les modèles économiques solides, et nul doute que la libéralisation des drogues dure en est un. En retirant aux trafiquants leur activité, les autorités économiseraient en effet des sommes vertigineuses, puisque environ 90% des moyens de la police sont consacrés à la lutte contre la narcocriminalité. Alors juste pour dire, en France, c'est 90. Hein. Voilà. L'État engrangerait aussi de nouvelles recettes fiscales, dont les assises qu'il pourrait consacrer à l'amélioration de la prévention et des soins pour les personnes dépendantes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le dernier paragraphe n'est pas, je trouve, hyper intéressant, sauf ce que dit donc c'est Sander Schimmelpenning qui dit, pour terminer, soit dit en passant, si les partis qui aspirent à former un gouvernement se préoccupent réellement de la santé publique, ils se concentrent sur cette addiction qui mine vraiment la vie des jeunes néerlandais, c'est-à-dire leur téléphone. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aux États-Unis depuis plusieurs années déjà et qu'on entend quasiment, enfin, qu'on commence à entendre un peu en Europe. Mais on n'ose quand même pas trop dire qu'il s'agit d'addiction, ou très peu, alors que les États-Unis ont déclaré, je crois que c'était en 2021 ou 2019, que l'addiction aux applis sur les téléphones était un problème de santé publique, le problème de santé publique numéro 1 aux États-Unis. Donc voilà.
Ah, moi, juste vers la conclusion, j'ai retenu la légalisation et la réglementation de drogues comme la cocaïne et l'ecstasy.
Et avec celle-ci, la fin d'une narcocriminalité abject n'est une mesure ni molle ni de gauche, c'est un acte libéral et pragmatique.
Tout à fait.
J'ai oublié cette phrase qui était.
Je l'avais mis en exergue parce que je la trouvais.
Eh
bien,
c'est bien. C'était une bonne idée. Voilà pour l'Europe. Il y a encore cet article sur le Portugal qui est très intéressant. Est-ce qu'on s'écouterait pas un peu de musique ou on l'enchaîne?
Je sais pas. On pourrait peut-être attendre.
J'en parle vite fait pendant que tu prépares la musique. Ça te va?
On va faire un tout petit.
Ah, je sais ce que tu vas nous mettre.
Morceau. Non. C'était juste une toute petite pause musicale avec Underage, Marijuana.
La pause énervée.
Voilà, parce que vraiment, sur les droits de l'homme, ça énerve. Hein.
J'espère que vous n'êtes pas enfui, que vous êtes toujours là à nous écouter, que vous n'avez pas eu peur. Bon, allez, la légalisation du cannabis est la meilleure option pour la santé publique et les droits de l'homme. Et là, en fait, il s'agit d'un article concocté par nos camarades du cirque et qui en fait nous parle en fait de João Goulão, qui est le coordinateur national antidrogue du Portugal, oui, et qui a joué un rôle clé dans la réforme qui a été mise en œuvre en 2001. À l'époque, hein, c'était pas qu'en 2001, c'était déjà dans les décennies précédentes, mais le Portugal a été confronté à une crise sanitaire majeur lié aux addictions, notamment à l'héroïne. Alors, je repense toujours quand on parle du Portugal, je pense à cette personne qu'on avait rencontrée sur un stand dans un festival où le cirque tenait un stand et qui nous racontait comment les choses se passaient à Lisbonne et dans les grandes villes portugaises avant 2001, où en fait il y avait des files d'attente dans les petites ruelles des vieilles villes où des gens se pressaient pour récupérer leurs petits sachets d'héroïne. Tout ça se passait dans des petites ruelles. On distribuait ça à travers des boîtes aux lettres. Enfin, et c'était assez glauque. Et donc, confronté à cette situation, au lieu d'emprunter, on va dire, la voie française, hein, qui est la surenchère dans la répression, eh bien, le Portugal a fait l'inverse total, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une politique plus humaine, enfin, ils ont abordé le problème d'une manière beaucoup plus humaine et pragmatique, en distinguant possession pour usage personnel et trafic. Et les résultats de cette politique ont été impressionnants. Le nombre de consommateurs d'héroïne a diminué de moitié depuis 1999, passant de 100 000 environ à 50 000 en 2019. Et en matière de cannabis, seulement 8% des jeunes adultes portugais de 18 à 34 ans ont consommé du cannabis en 2019 contre 21,8% en France. Donc, une réduction attribue une approche centrée sur la prévention et le traitement plutôt que la punition. La décriminalisation a également permis aux forces de l'ordre de rediriger leurs ressources et de se concentrer sur les trafiquants et plus de gaspiller son temps et son énergie sur les simples usagers. Donc voilà, elle se concentre sur les grosses organisations criminelles, les gros trafiquants, ce qui a renforcé la lutte contre le trafic de drogue. Pour les usagers, c'est quand même moins funky quand même, hein, parce que bon, alors je pense que les choses ont évolué, ça c'est un cadre assez officiel et un peu procédurier, je sais pas comment dire. Bon, apparemment quand on est un usager de cannabis en Portugal, bon, on peut se retrouver effectivement confronté devant cette commission de dissuasion de la toxicomanie, mais en gros on évalue un peu votre personnalité, votre consommation, etc. et votre situation socio-professionnelle. Donc c'est sûr que un usager intégré de cannabis qui a un boulot, etc., qui se retrouve là-dedans, ça serait un peu bon, on lui foutrait la paix en fait.
Mais hein, je pense que c'est une commission de dissuasion de la toxicomanie.
Oui, pas de
l'usage.
En fait,
ils recherchent cas qui où la consommation,
l'addiction, c'est ça que tu veux dire.
L'addiction, devient supérieure au plaisir.
Ouais, enfin on a entendu les deux sons de cloche. Hein. Voilà. On a entendu différentes choses, hein, sur le Portugal. On nous a, apparemment, aussi, c'est pas si rose, hein.
Je pense que c'est comme tout. Ça dépend des juges, ça dépend des juridictions, ça des, voilà.
Dépend des lieux géographiques où vous vous retrouvez. Voilà, aussi,
comme en France d'ailleurs, on sait qu'on n'est pas jugé de la même façon selon où on est arrêté.
Oui. D'ailleurs, ce qui va faire l'objet d'une action en justice devant l'Europe, hein. On en a parlé il y a quelques semaines. On y reviendra, j'en suis sûr.
Voilà, il y a aussi la légalisation du cannabis et les droits humains. Donc voilà, il y a la criminalisation de l'usage personnel des drogues pose un problème éthique en ce qu'elle restreint la liberté des individus de disposer de leur propre corps. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à souligner quand même, hein. Parce que je pense que c'est ça, une société qui valorise la liberté et l'autonomie personnelle, il est incohérent de punir des adultes pour un choix qui ne nuise pas directement aux autres. Voilà, réduction donc de la stigmatisation et protection des droits. Donc la décriminalisation en éliminant la menace de poursuites pénales pour son usage personnel réduit la stigmatisation des consommateurs de drogue. C'est une approche qui respecte davantage les droits de l'homme.
En effet.
Donc, pour la situation française, hein, en matière de répression, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, de Sarkozy à Darmanin, on a montré les limites à cette politique-là. Le pourcentage élevé de jeunes consommateurs de cannabis en France par rapport au Portugal suggère que la criminalisation n'est pas décisive. Au contraire. Voilà, donc toujours adopter une politique similaire à celle du Portugal pourrait offrir des bénéfices similaires en réduisant la consommation et en améliorant la santé publique. Bref, en conclusion, la politique de décriminalisation des drogues au Portugal a ses résultats positifs. En réorientant la lutte contre les drogues vers la prévention et le traitement public que la punition, le Portugal a réussi à réduire la consommation de drogue et à améliorer la santé publique. Voilà, donc en France, on pourrait faire pareil.
On pourrait.
On pourrait. Allez, il nous reste deux petits articles aux États-Unis, si tu peux les faire en moins de 3 minutes.
Ouais, bah ça devrait être possible. Alors, un article de Newsweek qui nous parle d'un rapport de la Drug Enforcement Administration, donc la DEA, qui apparemment a produit un rapport qui montre que la teneur moyenne de THC dans le cannabis illégal est actuellement d'environ 16%. Des données qui ont été obtenues suite à d'un programme de surveillance du cannabis de l'université du Mississippi qui indique une augmentation nette et constante de la puissance du cannabis qui s'est accélérée ces derniers temps. En particulier, la teneur de 16% enregistrée représente une augmentation de 29% à l'année précédente. Donc voilà, un article qui va à l'encontre de ce que je dis depuis des années. C'est un peu pour ça que je l'ai sélectionné aujourd'hui. Bon, il est tout petit, il est très bref, ça mériterait beaucoup plus de développement et d'analyse. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Alors je continue, hein. Les facteurs à l'origine de cette augmentation font toutefois l'objet de nombreuses spéculations, puisqu'une théorie plausible est mise en avant, l'inflation potentielle des pourcentages de THC dans le cannabis légal testé en laboratoire, en raison de la dynamique du marché. Donc voilà, ça se fait pas comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement parce que l'attrait d'une teneur élevée en THC pour les consommateurs soucieux de leur budget les pousse à se tourner vers les variétés présentant des taux de THC plus élevés, hein. Mais des experts rappellent que la teneur en THC n'est pas à elle seule synonyme de qualité. Hein, on l'a déjà vu, ce qui compte surtout, et là on sait un truc qu'on commence à voir de plus en plus, en fait, ce qui fait et ce qui peut faire la puissance d'une variété, c'est pas uniquement son taux de THC, mais c'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Et ça, c'est un truc dont on parle pas trop là dans cet article, mais qu'on voit quand même de plus en plus. Le paysage commercial du cannabis, qui est quand même réglementé et soumis à des tests rigoureux, présente souvent des THC qui sont plus élevés que le marché illicite, parce que voilà, il faut vendre, hein. Il y a quand même une étude du marché légal au Colorado qui a quand même révélé qu'il y avait une surestimation frappante des niveaux de THC de 23 à 35%. En gros, c'est faux, quoi. C'est-à-dire quand vous voyez 25 ou 30% de THC, en fait, il n'y en a peut-être pas plus de 15 ou de 10. Les changements dans les réglementations des États peuvent aussi avoir un impact sur les statistiques relatives à la puissance du THC. Par exemple, la Californie a connu une baisse de 7% de la teneur moyenne en THC au cours des premiers mois de 2024, après qu'il y a eu des ajustements aux lois de l'État qui régissaient les protocoles de test du THC. Alors, pour finir, les origines du cannabis saisi sur le marché illicite présentent quand même un tableau complexe impliquant des organisations criminelles transnationales telles que des cartels mexicains, notamment de la drogue, et des organisations asiatiques du trafic de drogue. L'augmentation de la teneur en THC du cannabis illégal suscite des inquiétudes quant aux risques potentiels pour la santé, en particulier pour les groupes démographiques vulnérables comme les enfants ou les adolescents. Et la DEA insiste sur la nécessité de faire preuve de prudence face à l'augmentation de la teneur en THC. Voilà, bon, ok. Et en fait, je suis presque d'accord avec cette dernière proposition de la DEA. Quand on est consommateur et qu'on se retrouve dans un magasin, un dispensaire aux États-Unis et qu'on nous dit 25%, en fait, c'est peut-être pas vrai, tout simplement. C'est peut-être beaucoup moins.
Ouais, il faudrait savoir le pourcentage de chacun des cannabinoïdes déjà. Et la deuxième chose, c'est comment il a été cultivé, avec quel engrais, quel pesticide, etc.
Etc. Voilà. Allez, et on termine, on va terminer là-dessus, juste voilà, pour vous dire que récemment, tout récemment, eh bien, l'État de la Californie a approuvé la légalisation de coffee shop à la néerlandaise, en fait. C'est comme ça que c'est dit dans l'article du Los Angeles Times. California Assembly passes bill allowing Amsterdam-style cannabis café. Voilà. Donc, il va pouvoir y avoir des coffee shops en Californie. Alors, pareil, les modalités fines de mise en œuvre vont s'écrire et se mettre en place progressivement, puisque selon les endroits, en Californie, il sera possible de servir des plats. De la restauration préparée ou non avec du cannabis, etc. Bon, à suivre. Allez, Cannabis Circus, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, c'est Chasseurs de Sons. Au revoir, à la semaine prochaine.